Voilà, alors merci, c'est chouette d'apprendre un peu plus qui vous êtes, ce que vous avez vécu, ce que vous avez aimé. Merci beaucoup pour toutes ces questions-réponses. Les enfants, si vous êtes encore là, vous pouvez descendre. Ça y est, il est l'heure. Et je vais demander à Alexandre Vanet de venir devant. C'est lui qui va nous apporter la prédication ce matin.
Vous m'entendez? Oula, waouh! Tu peux.
Est-ce que pendant que ça règle la sono, est-ce que je prie pour toi?
Oui, volontiers.
D'accord. Seigneur Jésus, je te remercie pour Alexandre. Je te remercie parce que tu as mis quelque chose sur son cœur et qu'il est là ce matin pour nous parler de ce que tu as mis dans son cœur. Je te prie que tu puisses parler au travers de lui comme il le désire et que nous, on puisse aussi être. Avoir des bonnes oreilles, avoir un bon cœur qui est prêt à t'entendre ce matin. Merci de lui donner ta paix et ta liberté pour nous parler. Amen. Amen.
Bonjour à chacun. Moi, je ne sais pas si vous avez vu là sur le PowerPoint en fait que les jeunes, ils ont des réponses à leurs prières. Hein, c'est bien ça. Et puis que Dieu, en fait, a aussi une importance dans leur vie. Ça, c'est quelque chose qui est fort. Et puis que ces moments qu'on a pu vivre ensemble jusqu'à présent, avec ce temps de louange aussi, c'est quelque chose qui est super. Et puis moi, ce matin, effectivement, comme disait Sarah, j'avais, après beaucoup de réflexions par rapport à mes années au flambeau, par rapport au cathé, par rapport à mon implication dans le groupe de jeunes, il y avait des choses que j'avais envie de vous partager ce matin. Dans ce plan que Dieu a pour nous de vivre des activités dans une assemblée, manière intergénérationnelle. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment important que Dieu puisse travailler dans cette Église aussi par rapport à toutes les générations qui la composent. Et puis, quels sont les plans, et puis comment Dieu fait pour qu'on puisse se rejoindre entre générations. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui était fort pour moi. Et puis, ce matin, je voulais juste commencer par une petite introduction où Anne-Sylvie va nous lire une petite anecdote. En fait, c'est une dépêche qui a été faite sur la BBC en février 2000. Et puis je trouve qu'il illustre bien en fait ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Alors, je vais laisser Anne-Sylvie lire.
Donc, c'est un article, une dépêche de la BBC, qui a paru en 2000. Ça parle d'une réserve naturelle en Afrique du Sud, où en l'espace de quelques semaines, ils ont eu 36 rhinocéros blancs qu'ils ont retrouvés morts, comme ça, ils ne savaient pas ce qui se passait. Au début, les gardiens du parc ont pensé que c'était des braconniers, mais en fait, les rhinocéros avaient toujours leurs cornes. Donc, ce n'était pas des braconniers, ils ne comprenaient pas. Donc, les responsables du parc ont mis des caméras à différents endroits du parc, aussi sur certains rhinocéros. Et qu'est-ce qu'ils ont pu constater? C'est qu'en fait, c'était des jeunes éléphants qui pourchassaient ces rhinocéros, et qui les frappait avec des branches jusqu'à épuisement, en fait, jusqu'à que les rhinocéros meurent. Alors, c'était vraiment très étrange, ils n'avaient jamais vu ça, ils ne comprenaient pas. Et puis, en cherchant la réponse dans les archives du parc, ils ont vu que 20 ans avant, dans les années 80, dans le parc Kruger, qui est un parc national aussi en Afrique du Sud, pas très loin de celui dont on parle, ils avaient eu trop d'éléphants. Donc, ils avaient décidé d'en prendre certains, puis les déplacer dans ce parc. Et puis comme ils ne pouvaient pas tellement déplacer les plus âgés ou les plus gros, ils ont pris les plus jeunes en fait. Et puis ces jeunes éléphants, ils les ont mis dans ce nouveau parc. Et en fait, ils ont grandi sans être encadrés par des éléphants plus matures, des éléphants plus âgés. Et la conséquence de ça, ça a été que ces éléphants en fait sont devenus un peu... avaient des comportements un peu fous, et c'est eux qui ont fait ce massacre de rhinocéros. En fait, c'était un peu un coup de folie où ils pourchassaient ces rhinocéros. Et alors donc, ils ont décidé de tuer donc les éléphants les plus agressifs, et puis de réintroduire des vieux mâles, des femelles aussi plus âgées. Et ils ont vu au bout de quelques temps que les éléphants plus âgés avaient corrigé le comportement, les attitudes violentes des plus jeunes en leur donnant un cadre. Et ensuite, ils n'ont plus eu de mort de rhinocéros.
Alors c'est vrai que je voulais vous partager cette dépêche qui était donc en 2000. C'est un petit peu tôt là, tu peux. c'est vrai que pour moi c'était important. C'est vrai que cette histoire me parle vraiment dans le sens que C'est vrai qu'il y a une importance, en fait, d'avoir une relation entre les générations. Et puis, c'est vrai que les enseignements qu'on peut avoir, même si on n'est pas des éléphants, même si des fois on a des comportements un peu lourds, mais même si on n'est pas des éléphants, on peut retirer des choses par rapport à cette histoire. Je crois que ce qui est important, c'est vrai que quand il n'y a pas un leadership qui est mûr, mature dans une église, il peut avoir des conséquences similaires. Ou bien, si des chrétiens enthousiastes, jeunes, qui ont le feu, même c'est très bien, mais c'est vrai que s'ils ne consultent pas les plus anciens dans l'église, ils risquent de passer à côté. Et puis c'est vrai que pour Dieu, en fait, quand il voit cette situation, en fait, par rapport à cette histoire, Dieu appelle des pères et des mères spirituels à se lever dans l'église et à accompagner les générations suivantes pour les protéger, pour les sécuriser, pour leur amener une certaine protection et puis les encourager dans leurs projets, dans leur potentiel. Et puis c'est vrai que souvent dans nos églises, on a l'impression que plus on fait des séminaires, plus on fait des études bibliques, plus on lit des livres, plus on arrive à une maturité spirituelle. Alors je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est vrai que les gens ont besoin, en tout cas les jeunes ont besoin de relations authentiques, et authentiques avec des personnes plus âgées. Et c'est vrai que par rapport aux études, c'est vrai que ça ne veut pas dire que quand on... j'ai une petite anecdote avec le cathé. En fait, on a fait un quiz où on présentait des personnages de la Bible et puis il fallait savoir un peu qu'est-ce qui s'était passé, les situer dans le temps. Et puis pour les jeunes, c'était évident que quand je suis tombé, c'est tombé sur moi, que je savais toutes les réponses. Donc ça n'empêche pas, c'est nécessaire d'approfondir ses connaissances avec la Bible. Moi, ça m'a beaucoup boosté en me disant, mais il faut que tu y ailles, quoi. Il faut que tu connaisses un peu ta Bible mieux, parce que les jeunes, ils ont soif de connaître des choses. Et puis, mais ça ne veut pas dire que ça suffit pour être un chrétien mature spirituellement. On a besoin d'avoir des modèles, des relations avec des gens qui soient authentiques. On a besoin justement de ces personnes, ces pères et ces mères spirituelles qui nous aident, qui nous encouragent, qui nous questionnent parfois sur ce qu'on fait, sur où on va, et qui nous amènent à une certaine maturité. Même pour des évangélistes très confirmés, on a besoin d'avoir un soutien de personnes plus âgées que nous. C'est vrai qu'on a... On a besoin des relations pour grandir. C'est vrai que pour les enfants, c'est la même chose. Quand on veut arriver à une maturité, même surtout pour les petits-enfants, ils ont besoin d'avoir des relations, qu'on les conduise, qu'on les éduque, qu'on les encourage dans leur vie. Et puis c'est vrai que quand on travaille dans la jeunesse, comme moi ça fait pendant longtemps, en fait, finalement, j'ai compris que c'était vraiment important pour eux que de pouvoir travailler en fait, entre plusieurs générations. C'est une richesse que les générations puissent... communiquer entre elles. Donc c'est vraiment un objectif qui était vraiment fort pendant ce cathé, mais aussi au flambeau aussi, qu'on puisse travailler entre ces générations. Puis c'est vrai que pour moi, dans ma jeunesse aussi, que j'étais responsable du groupe de jeunes aussi, ici, vous m'avez fait confiance, vous m'avez laissé des responsabilités aussi, et puis ça m'a aussi boosté aussi dans ma foi, de me dire, ben voilà, on me fait confiance, tu peux y aller. Et puis ça, c'était vraiment un moteur aussi pour ce matin, parce que finalement, vous ne savez pas qu'est-ce que je vais vous dire tout à l'heure. Mais on m'a laissé cette confiance-là. Puis ça, c'est quelque chose qui m'encourage. Et puis c'est vrai qu'avec les flambeaux aussi, quand on se retrouve à 16 ans, quand on est un jeune chef, puis qu'on se retrouve face à des enfants, puis on leur parle de Dieu, il faut qu'on vive quelque chose avec lui. Autrement, ça n'a pas de sens de parler de Dieu si on ne ressent pas. Et c'est vrai que moi, à 16 ans, ça m'a vraiment encouragé de me dire, waouh, ben voilà, maintenant il faut que ce soit cohérent ce que je vis, quoi. Qu'est-ce que je vais transmettre ? Ce n'est pas juste des connaissances, mais c'est ce que moi je vis avec Dieu. Moi, je voulais juste vous partager un texte dans Malachie 4, où Dieu vraiment nous fait un appel, en fait. Alors, peut-être à la fin du culte, il y a peut-être des gens qui connaissent bien, bien, bien la Bible. Moi, dans ma Bible, il n'y a pas de Malachie 4, verset 6. Moi, c'est le verset 3:24. C'est Malachie 3:24. Ça m'intéresse de savoir s'il y en a qui connaissent, pour quelles raisons. Mais dans le texte de Malachie 4, verset 6, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et leur cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » C'est intéressant de voir que c'est le cœur du père. C'est les tripes, quoi. C'est qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, qu'est-ce qu'on transmet à nos fils et nos filles spirituelles. C'est vraiment notre personnalité, vraiment notre intérieur, en fait. On a besoin de se dévoiler pour transmettre aux enfants. Et puis c'est vrai que c'est pas forcément le père, c'est pas le père naturel. Ça peut être même si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas une condition. C'est juste d'avoir voilà, cette possibilité de transmettre à des fils et des filles spirituelles. Le père, en fait, c'est un peu une personne, c'est un peu une personne peut-être plus âgée, plus expérimentée, qui enseigne, donc surtout quand on fait confiance à elle, qu'on la respecte. Et ça, c'est vraiment primordial. Et que le fils, ce n'est pas forcément justement l'enfant naturel de cette personne, mais ça peut être, c'est juste, ça peut être cette fils spirituelle. Et puis moi, dans ce texte de Malachie, ce qui est intéressant, c'est que donc ça s'est passé il y a 500 ans avant Jésus-Christ, où le peuple d'Israël, en fait, après une longue captivité à Babylone, est revenu en fait dans son pays, a pu reconstruire le temple, a pu revivre un culte qui était agréable à Dieu, puis tout marchait bien. Et puis 100 ans plus tard, donc environ presque 3 générations plus tard, tout est devenu sur le déclin, il y a un relâchement. Les personnes sont retombées dans l'idolâtrie. On oublie vite le passé. Et puis à ce moment-là, justement, ce texte que Malachie dans 4 dit, tout ce que Malachie transmet dans son livre, c'est vraiment qu'il y a un dialogue entre Dieu et lui. Et puis Malachie, en fait, transmet toutes ces informations au peuple en lui disant, mais reviens à ce que tu as vécu jusqu'à présent, reviens dans mon sillon. Et puis c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que c'est le dernier verset de l'Ancien Testament. Et puis il y a eu ce 400 ans en fait de vide avant qu'il y ait le Nouveau Testament où Dieu justement va se révéler par son Fils comme un Dieu, comme notre Père. Et puis ça, c'est le projet de Dieu, c'est qu'on puisse être ses enfants. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu au cours Alpha avec le cathé. C'est vrai que Dieu vraiment veut nous donner une identité comme enfant de Dieu, comme fille et fils d'un roi en plus. Et c'est vraiment ce projet, c'est qu'on ait cette relation. Donc ce projet de Dieu, c'est vraiment qu'on ait cette relation avec ce Père qui nous aime. Et puis c'est vrai que dans le texte de Corinthiens 6, verset 18, il est vraiment dit, Dieu nous parle directement en disant, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est vraiment son désir, c'est vraiment d'entrer dans cette relation avec nous, personnelle, entre un père et son enfant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort. Et puis, on le voit dans tout le Nouveau Testament, tout ce que Dieu veut vraiment entrer dans notre relation. Et puis, c'est vrai que on le voit aussi dans cette parabole du fils prodigue où vraiment on voit le cœur du Père. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse. Et vraiment, aujourd'hui, le cœur de Dieu, c'est vraiment de nous appeler comme Père et Mère spirituelle. L'apôtre Paul a joué ce rôle, on le voit avec plusieurs personnes dans son ministère. Et on le voit dans 1 Thessaloniciens 2, versets 11 à 12. « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume, à sa gloire. Donc c'est vraiment cette relation qu'il avait, Paul, avec Timothée ou avec d'autres, c'était vraiment cette relation d'un père avec un fils. Et on a vraiment besoin, comme avec un père ou une mère naturelle, c'est qu'elle nous apporte en fait un équilibre, des conseils, une présence, une sécurité. On a besoin de ça. C'est vrai qu'en tant que père, c'est une lourde responsabilité. Des fois, on n'est pas à la hauteur. On a l'impression que la tâche est trop grande. Mais je crois que vraiment, ça vaut la peine. En fait, même les sociologues le disent aussi, si un enfant ne grandit sans père, il est perdu. Il y a beaucoup plus de risques en fait, que lui tombe en fait, dans certaines dépendance, il a besoin vraiment de ce cœur, d'être en lien avec son père. Puis je crois que tous les papas, tous les hommes qui sont ici, je crois que c'est vraiment important qu'on puisse retrouver cette identité, ce rôle qu'on a propre en tant que père. C'est quelque chose qu'on doit travailler pour qu'on puisse vraiment trouver notre place dans notre famille et qu'on puisse aussi conduire nos enfants dans ce qu'ils vivent. Et puis c'est vrai qu'on a souvent tendance, dans ces périodes maintenant, c'est vraiment la famille, on essaie de tout un petit peu séparer, que beaucoup de familles sont attaquées, on le voit aussi autour de nous, divisées, qu'il y a parfois des manques de repères. Et il y a des gens qui perdent peut-être, qui reçoivent moins cet héritage affectif et spirituel de leurs parents. Et puis on cherche, on le voit, on cherche beaucoup de modèles, on cherche toujours quelqu'un qui puisse nous guider dans ce qu'on vit. Et c'est vrai qu'un père, c'est plus une personne qui nous guide, qui nous fait vraiment avancer. C'est vraiment un guide pour nous. Et puis c'est vrai que mon papa souvent m'embêtait avec mes... C'est vrai que quand j'étais petit, je voulais avoir le plus beau cadeau et le plus gros surtout. Sous le sapin de Noël ou bien à mon anniversaire, c'était quelque chose d'important pour moi. Alors j'étais toujours déçu que c'était des petits cadeaux. Mais je pense que le plus beau cadeau qui m'est fait, c'est de m'écrire une lettre en fait à l'heure de mes 30 ans. Puis je vais juste vous lire un petit extrait parce que c'est quelque chose qui pour moi m'a beaucoup encouragé en tant que fils. Cher Alexandre, que le temps passe vite, nous avons fêté ton 30e anniversaire en famille. Toutefois, nous désirons manifester notre reconnaissance à Dieu pour ces 30 années où nous t'avons vu grandir, t'épanouir et t'affermir aussi bien dans ta personnalité que dans ta relation avec Dieu. À Jésus-Christ, toute notre reconnaissance pour que tu nous as apporté dans notre existence ici-bas. Et puis après, il me partage d'autres choses. Mais c'est vrai que pour moi, c'était très fort de me dire qu'en tant que fils, ben voilà, mon père pouvait m'encourager dans ce que j'étais. Et puis ça me donne aussi une force aussi pour continuer à grandir et à devenir un chrétien mature. j'avais encore aussi, ouais, c'est vrai que pour les enfants, c'est vraiment tellement important ce modèle qu'on peut avoir en tant que père et mère spirituel. Et c'est vrai que les jeunes, moi je me suis rendu compte qu'au Cathé aussi, les jeunes vous observent beaucoup dans ce que vous faites, de comment vous réagissez en fonction de ce qui se passe. Et c'est vrai que par exemple pour un décès, ben, on observe en fait, les jeunes observent aussi comment vous réagissez par rapport à des moments difficiles, comment vous acceptez, comment vous trouvez des ressources aussi pour traverser des moments difficiles. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on recherche, ce modèle en tant que jeune. Donc ça nous implique que nous, on doit être ces pères et ces mères spirituels pour ces jeunes. Un disciple formé par un bon modèle est un acteur puissant de la génération qui monte. Ça, c'est vraiment primordial. C'est vraiment une puissance de pouvoir la génération qui vient. Et puis, c'est vrai que ça concerne tout le monde, chacun d'entre nous. Ce n'est pas réservé uniquement à Christophe, qui est notre pasteur jeunesse. Ce n'est pas réservé à Corinne, qui est responsable de la jeunesse. C'est pour tout le monde. On a tous un rôle à jouer, du plus petit au plus grand. On a vraiment besoin de tout le monde, que ce soit qu'on soit petit ou grand. Et puis c'est vrai que quand on travaille ensemble entre générations, il y a un héritage spirituel puissant qui se communique et se multiplie. Puis c'est vrai que, ben, je ne sais pas si tu m'en veux Aurélien, mais comme on s'est vu ce matin, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai accueilli Aurélien quand il a commencé les flambeaux à 7 ans et demi. Et puis c'était un peu spécial parce que c'était avant ses 8 ans, donc on était un peu tous inquiets. Et puis... ça s'est très très bien passé, c'est vrai qu'il voulait absolument commencer les flambeaux. Et puis c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que quand il a commencé les flambeaux, il y a eu des chefs qui l'ont entouré, qui l'ont montré des choses. Ça a continué quand il était cisnier, il a pu prendre des responsabilités, chef de patrouille, il a pu venir chef aussi. Puis maintenant, il est même chef de groupe. Et c'est vrai que de voir toute cette progression, en fait, de cette maturité qu'il peut avoir. Et puis ça, voilà, petit à petit, en fait, on apprend. Hein, avec le temps, en fait, on prend plus de responsabilités. Et puis c'est vrai que au flambeau, ce qui est fort, c'est qu'on peut prendre des responsabilités quand on est jeune. Donc même déjà à partir de 12 ans, on peut déjà avoir une responsabilité dans sa sixaine. Puis après, on peut continuer tout au long de sa carrière au flambeau. Et puis ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important dans notre église aussi, c'est de laisser la place aux jeunes pour qu'ils puissent justement prendre des responsabilités. Moi, ça m'a fait du bien quand on m'a dit « Alexandre, il faut que tu fasses la scène, il faut que tu participes en tant que responsable du groupe de jeunes, de parler en public ou bien... » Ça, c'est quelque chose qui me fait du bien, de cette confiance. Et puis, ça m'a permis aussi d'approfondir aussi ma relation avec Dieu. Et puis, dans psaume 71, j'aimerais juste vous lire ce psaume qui est magnifique. « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Aussi, jusque dans la vieillesse aux cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas, afin que j'annonce ta force à cette génération, ta puissance à tous ceux qui viendront, et la justice. Ô Dieu, atteins de grands sommets, car tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles, aussi jusque dans la vieillesse aux cheveux blancs. Ô Dieu, ne m'abandonne pas, afin que j'annonce ta force à cette génération, ta puissance à tous ceux qui viendront, et la justice, ô Dieu, atteins de grands sommets, car tu as accompli de grandes choses. » Et puis ça, c'est que ça nous montre, ce verset nous pousse à aller transmettre ce que nous, on a reçu aux autres. Et puis ben voilà, ben Aurélien, maintenant, c'est lui qui il a reçu pendant ses nombreuses années au flambeau. Et puis maintenant, il peut le transmettre maintenant aussi, même déjà avant. Et puis c'est vrai que ce verset, ça m'a un peu touché parce que ben, depuis l'âge de 20 ans, ça c'est un héritage de ma grand-mère, j'ai les cheveux gris, blancs. Et puis je me suis dit, ben voilà, ben moi j'ai une autre responsabilité, c'est que j'ai dû commencer plus tôt. Donc ça m'a encouragé, j'ai compris enfin pourquoi j'avais des cheveux blancs. C'était que ça me poussait à être un père et une mère, enfin en tout cas un père spirituel pour les autres. Déjà beaucoup plus tôt. Donc voilà, j'ai pas dû attendre plus que ça commence à avoir quelques cheveux blancs sur les tempes, mais j'ai dû commencer tout de suite. Et puis ça, ça m'a beaucoup encouragé. Et puis ce texte vraiment nous montre l'importance de transmettre à la génération suivante. Et c'est vrai que dans la Bible, il y a plein d'exemples de personnes qui ont transmis aux générations suivantes, comme par exemple Moïse à Josué. Et puis ce qui est intéressant, c'est que Josué, en fait, il est resté encore plus longtemps dans le temple. Donc, et puis Élie avec Élisée aussi. Élisée a demandé une double portion de bénédiction de Dieu, en plus, hein, même qu'il était le fils spirituel d'Élie. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que comme c'est comme une course de témoins, quand on passe le témoin à quelqu'un d'autre, on court un moment avec. Mais si on court, on s'arrête, puis qu'on garde notre témoin dans la main, ben, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est vraiment de courir avec l'autre et lui transmettre pour qu'il lui puisse aller encore plus haut, plus grand, plus loin. Et puis c'est vrai que ça, c'est assez fort, c'est que ben, nous, on a vécu des choses, mais en même temps, ben, ceux à qui on a transmis ce que nous, on avait compris ou ce qu'on avait vécu avec Dieu, eh ben, ça peut être encore multiplié par encore plus. Et ça, c'est quelque chose qui est fort, quoi. Et puis c'est vrai que tu peux mettre l'image des oiseaux, que mon papa m'a prêté volontiers lors de ces photos. Moi, ce que je trouve intéressant avec cette photo, c'est qu'on voit ces grues, en fait, hein, qui se trouvent en France, là, et qui volent en V. Mais ce qui est intéressant avec cette image-là, de ces grues, c'est qu'elles peuvent, par la force d'aspiration de la première, donc elles se relayent, en fait, la première vole, donne l'impulsion pour les autres, et régulièrement, il y en a une qui change. Et puis c'est elle qui, avec cette force d'aspiration qu'il y a entre elles, elle peut voler 70% de plus que si elles étaient seules. Et puis ça, c'est incroyable. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire que grâce au fait de pouvoir être ensemble, et puis de pouvoir voler ensemble dans le même sillon, eh ben, ça nous pousse encore plus loin. Et puis, du coup, il peut voler encore beaucoup plus loin. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai fait du vélo, souvent, je fais du vélo seul. Et puis, quand on fait du vélo en groupe, ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est devant, puis les autres derrière. Puis, si on se met bien aligné dans l'axe du vélo, ben, on sent cette aspiration qui nous pousse. Du coup, on est tranquille. C'est pour ça qu'on voit dans les pelotons aussi, dans les grandes courses cyclistes, ben, voilà, celui qui est devant, c'est lui qui prend le plus de difficultés à pédaler. Mais c'est vrai que ça fait cette force qui nous pousse, et puis on peut aller encore plus loin. Et puis ça, c'est quelque chose qui me booste, quoi, qui fait du bien à entendre. Et puis c'est vrai que c'est assez fort quand on fait le caté, on reçoit beaucoup de choses par rapport à ce qu'on transmet. C'est vrai que ben, voilà, ça nous prend beaucoup de temps, mais quand on c'est un plaisir de pouvoir réfléchir sur certains thèmes et de pouvoir le partager à des jeunes. Et puis c'est vrai que par rapport à... moi, je voulais juste une petite parenthèse avec Natania. Pour moi, c'est vraiment une joie, en fait, de pouvoir participer. Je ne sais pas si vous savez que le 3 juillet, il y aura le baptême de Natania, entre autres. Et puis de voir que ben, pendant toutes ces années, grâce à ses parents, grâce à tous les amis qui étaient autour d'elle aussi, avec l'église, avec le culte de l'enfance, tout ça, elle a pu prendre cette décision de suivre Jésus. Et puis ça, c'est fort. Hein, enfin, c'est ce qu'on recherche le plus, c'est que nos enfants, nos jeunes puissent s'engager envers Dieu. Et puis que Dieu puisse régner dans leur vie. Et puis ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et c'est vrai qu'on avait à cœur aussi, quand on a commencé le caté aussi, de pouvoir ouvrir aussi le caté, de faire à la limite chez moi. Donc on a fait une fois chez moi, aussi chez Monica, pour que les jeunes puissent voir aussi où on habite, comment on vit. Et puis aussi, Anne-Sylvie est venue avec les enfants aussi au caté. Et puis ça, c'est quelque chose qui, de pouvoir ouvrir nos portes, nos maisons aussi pour les accueillir. Ils ont besoin aussi de nous voir aussi comme on est dans notre quotidien. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on avait vraiment insisté avec Anne-Sylvie aussi pour qu'on puisse le faire. Et puis c'est vrai que quand on est un père ou une mère spirituelle, il n'y a pas besoin de faire des grandes études. Il faut juste être un modèle sincère et encourageant. Ce qu'on cherche dans un modèle, c'est son intégrité, son authenticité. C'est ça qu'on cherche. On ne veut pas qu'il nous donne tout plein de théories, mais ce qu'on veut, c'est qu'il veut... Ouais, on cherche vraiment cette intégrité. On n'a pas besoin de s'habiller très jeune. Enfin, c'est vrai que quand on s'occupe de la jeunesse, on croit qu'on doit absolument s'habiller comme eux. Eh ben déjà, ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas ça qu'ils recherchent. Hein, ce n'est pas ça qu'ils recherchent. Ce qu'ils ont besoin, c'est qu'ils aient cette relation authentique avec nous. Et puis, peu importe notre habillement, même si on est peut-être un peu ringard, ce n'est pas ça, c'est qu'est-ce que nous, on vit et qu'est-ce qu'on transmet pour eux. Et puis, c'est vrai que quand on est mentor ou quand on est père ou mère spirituelle, ben, c'est vrai que ça nous fortifie aussi de pouvoir vivre ça avec les autres. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'attendre un âge pour pouvoir le faire, on peut le commencer tout de suite. Et c'est vrai que si on attend de se sentir prêt pour le faire, on ne le sera jamais. Il faut simplement se lever et commencer dès maintenant à devenir père et mère spirituel. Et puis ça c'est une mentalité, on peut déjà le commencer à partir de 8-9 ans. Moi ça me fait penser à mon fils là, qui est venu une fois au culte de l'enfance. Et puis, ce qu'il voulait absolument, ben, il n'avait pas envie de venir déjà. Et puis, il est arrivé là-bas, ce culte de l'enfance, et puis il y a un grand qui s'est occupé de lui, qui est venu vers lui, et qui lui a fait un dessin d'un avion de chasse. Et puis ça, c'était le top du top pour lui. Un grand s'est occupé de lui, et puis a pu faire ce dessin très fier, il m'a montré ça à la fin du culte. Et puis c'est vrai que pour David, c'était vraiment important. Donc il était remercié, ce jeune, à la fin du culte de l'enfance. Et puis ce jeune était tout gêné, en fait, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi David était si fier et puis si content qu'il ait passé ce temps. Ce n'était pas grand-chose, mais pour David, ça fait toute la différence. Donc on peut déjà commencer, déjà très jeune, à être des pères et mères spirituels pour les autres. C'est vraiment une mentalité à avoir. Et c'est vrai que pour les jeunes, on peut déjà leur laisser cette place-là. On peut leur donner, les apprendre à qu'ils puissent donner aux autres. Et puis j'aimerais juste vous partager encore un autre texte dans 1 Timothée 4, verset 11. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. C'est un sacré mot d'ordre, hein, ça nous met la barre haut. Mais je crois que ça vaut vraiment la peine. Et puis c'est aussi valable pour nous. C'est valable pour les personnes plus âgées, pour les jeunes, mais c'est aussi valable pour ceux qui finissent le cathé, comme Nathaniel, Lauriane, Christophe, et puis Naomi aussi, que vraiment, que vous puissiez être vous-même aussi des pères et mères spirituels pour d'autres, parce que vous avez des potentiels en vous, et puis moi je crois que vous pouvez aussi amener aussi à d'autres jeunes. C'est un sacré programme, mais je crois que ça vaut vraiment la peine. Être un père et mère spirituel, ce n'est pas faire, mais être. C'est vraiment, c'est pas, si on cherche un ministère en vue où on a vraiment envie d'être devant tout le monde, ben ça ne sert à rien, on peut déjà arrêter. C'est vrai que c'est un ministère où en fait on est beaucoup en arrière-plan, on ne sait pas. Moi, c'est un peu vous me voyez devant ce matin pour le culte de fin de cathé, mais tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans, ben vous ne m'avez pas vu. Vous avez peut-être pu voir hein, ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est des fois un peu frustrant parce que finalement, ben, on a envie de transmettre plus. Je vais m'arrêter là. Mais je crois que. C'est vrai qu'avec les jeunes, quand on a l'impression qu'on dépose des graines, on ne sait jamais à quel moment ça va mûrir. C'est vrai que c'est assez frustrant des fois, c'est qu'on a vraiment, c'est souvent en cachette, on ne sait pas, on sème, mais on ne sait pas les résultats. Et puis je voulais juste vous lire peut-être une lettre que j'ai reçue d'un chef flambeau, en fait, quand je me suis retrouvé justement à 15 ans, en fait, où j'ai loupé mon certificat, et puis il m'a écrit une lettre que j'ai, on voit, elle a été punaisée pendant longtemps sur mon bureau, parce que c'était quelque chose qui m'a vraiment encouragé. « Cher Alexandre, j'ai appris ton échec du certificat et j'aimerais t'encourager par ces quelques lignes. Il se trouve que cette situation très désagréable où nos résultats nous déçoivent m'est arrivée plusieurs fois. Et je sais que ce n'est pas très facile. On se pose beaucoup de questions et surtout envers Dieu, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Ce que j'aimerais surtout te dire, c'est que cette épreuve pourra devenir positive si tu la prends comme un défi pour recommencer et persévérer. C'est plus vite dit que fait. C'est pourquoi j'aimerais surtout te dire que je pense à toi dans mes prières. » Et puis j'espère que le camp d'été sera une occasion pour démontrer d'autres qualités que Dieu t'a données. Mais là, tu n'auras pas d'examen. Et puis ça m'a vraiment, vraiment, ben là encore, ça m'émeut. C'est vrai que, ben voilà, on a l'impression qu'on est vraiment une nullité, on a loupé ses examens, on est nul, on a l'impression qu'on ne vaut rien. Et puis finalement, en fait, c'est vrai que Dieu il voit au-delà de ça. Et puis c'est vrai que j'étais vraiment encouragé par ce chef en disant, mais finalement c'est vrai que c'était mon premier camp que j'allais commencer, donc j'ai mes examens en juin, j'avais loupé, puis il y avait le camp en août, et puis c'est vrai que ce camp en fait, c'était mon premier camp, et c'est vrai que je me suis rendu compte, ça m'a montré toutes les capacités, toutes les qualités que je pouvais avoir pour être avec les jeunes, puis ça c'était vraiment quelque chose qui était vraiment fort pour moi. Mais c'est vrai que quand on prend du temps avec les pères et mères spirituels, c'est vrai que ça nous engage, ça prend du temps, hein. Il faut prendre ce temps-là. C'est vrai que mon beau-frère m'a demandé que je sois son témoin, puis que je puisse le suivre aussi dans ses débuts de mariage, puis de trouver une date pour se voir, c'est vraiment pas facile, il faut prendre du temps. C'est assez contraignant. Et puis j'aimerais juste encore vous dire une histoire, si vous me permettez, qui m'a beaucoup encouragé. Désolé Sarah, mais je crois que c'est important. Par rapport à tous ceux qui sont actifs dans la culte de l'enfance ici ou avec les jeunes dans cette église. C'est vrai que souvent on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur ou bien qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos récompenses, est-ce que les jeunes vraiment ont compris ce qu'on veut dire. C'est vrai que Ce qui est fort aussi, c'est que quand on est au cathé, ben voilà, le vendredi soir, on est crevé, on a eu notre semaine, c'est souvent difficile de se retrouver. Il faut vraiment qu'on ait un coup de pied pour vraiment venir, pour prendre ce temps avec les jeunes. Et puis ce qui m'a beaucoup encouragé, c'est cette histoire avec cet évangéliste qui était puissamment oint par Dieu. Et puis malheureusement, ben, il est décédé. Et puis il arrive au ciel. Et puis ben, c'est vrai qu'il était vraiment il était content de retrouver son Seigneur. Et puis, il y avait, vous savez, dans la Bible, il y a cette histoire avec ses couronnes de récompense. Et lui, en fait, il voit une immense tablée avec plein de couronnes. Puis il y avait une petite, plus simple, jusqu'à une plus grande au bout de la table. Puis lui, par rapport à toutes ses prédications qu'il avait, tout ce qu'il avait pu transmettre, il avait pu faire des conversions, donc il était sûr qu'il pourrait obtenir la plus belle des récompenses, c'est-à-dire la plus belle couronne qui était sous cette table. Et puis, en fait, Dieu, quand il distribue les couronnes en fait, qui sont aux gens qui arrivent ici, eh ben, en fait, il donne des couronnes, il reçoit une des plus petites couronnes, hein, il ne comprend pas, et il voit Dieu qui prend une grande couronne, la plus belle, et qui va l'amener tout au bout vers une petite dame qu'il n'avait même pas vue avant. Une toute petite dame qui était là, et en fait, il ne l'a pas vue. Et puis, mais vraiment, il ne comprend pas. Alors, quand Dieu est un petit moment tranquille, il lui a allé vers lui, puis il lui a demandé, mais alors pourquoi c'est pas moi qui ai reçu cette grande couronne? Tu as vu toutes les conversions que j'ai faites? Et puis Dieu lui répond simplement, mais tu vois, sans cette dame qui a prié pour toi, tu n'aurais jamais pu transmettre toutes ces conversions que tu as faites. Sans cette dame qui a prié pour toi, tu n'aurais jamais pu atteindre ça. Donc c'est vrai que des fois, Dieu, en fait, voit les choses qui se passent, ce que nous, on peut semer, même si nous, on ne les voit pas. Et ça m'a beaucoup encouragé dans ce ministère auprès des jeunes, auprès des enfants. C'est vrai que c'est assez ingrat parfois, on a l'impression qu'on est seul, mais que Dieu y voit ce qu'on fait. je vais m'arrêter là. Je voulais juste, pour terminer, en fait, j'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble. Alors, je vais vous demander juste de vous lever tous ensemble. Et puis, merci à Marc-André et puis Patricia. On va juste prier. Oui Seigneur, on a besoin d'un appel de toi pour entrer dans ce ministère. Tu vois que par nos propres forces, c'est tellement difficile de pouvoir être un père ou une mère spirituelle. C'est vrai que c'est un projet que tu as placé dans nos cœurs et tu vois que parfois on peut avoir beaucoup de réticence, on ne se sent pas à la hauteur par rapport à notre mission que tu nous donnes. Aide-nous à nous lever pour entrer dans ce rôle que tu nous donnes. Et puis c'est vrai que si déjà dans ta famille tu as souffert, tu as des relations brisées, avec ce soit que ton père, ta mère, entre tes frères et tes sœurs, sache que Dieu veut te guérir de ce qui t'empêche d'entrer dans ce projet. Il veut restaurer une relation avec toi. Dieu accorde maintenant cette réconciliation. L'Église de Villars a besoin de père et mère spirituels au sein de sa jeunesse. On sait que tous les besoins que l'Église a maintenant pour sa jeunesse, que ce soit pour le culte de l'enfance, pour les jeunes, merci de nous donner la force de pouvoir s'engager pour toi, pour ces jeunes. Et puis c'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas commencer déjà maintenant. Seigneur, j'aimerais te demander vraiment que Nathania, Lauriane, Naomi et Christophe puissent aussi s'engager auprès des jeunes. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette assurance. Et puis si toi tu sens que tu es déjà un père et mère spirituel pour certains dans cette église, je sais qu'il y en a. Seigneur, que tu puisses les affermir, les confirmer dans ce qu'ils sont, les fortifier les dans leur ministère, Seigneur. Et puis si toi, tu te poses des questions, ça te touche ce matin par rapport à ce message, ben lève-toi. Commence déjà, dès maintenant, à t'engager avec lui, pour ces jeunes. Ouais, vas-y, lève-toi maintenant. Merci pour toute cette assemblée qui est là devant nous, devant moi. Merci de les bénir dans ce qu'ils sont, merci de bénir dans toutes leurs capacités et leurs dons. Et Seigneur, j'aimerais vraiment te demander que tu puisses les envoyer là où ils sont, et puis que tu puisses mettre à cœur des jeunes ou des gens qui sont autour d'eux, qui ont besoin de pères et de mères spirituels. Et je veux bénir au nom de Jésus-Christ toute cette assemblée qui est composée de toutes les générations, Seigneur. Viens, Seigneur. Amen. Thank you.